France Culture. France Culture, de cause à effet. Aurélie Luneau.
La planète dans l'œil des photographes, du photojournalisme à la photo du climat et de l'environnement. Nos invités ont choisi d'immortaliser le spectacle de la nature, de rendre visible la beauté de la planète, des éléments naturels aux chaînes de montagnes qui subissent les effets du réchauffement climatique. À travers ces photos d'auteurs, ces tableaux d'où se dégagent poésie, immensité, fragilité, et au-delà de leur regard personnel, il y a la puissance des images qui ont le pouvoir d'interpréter les consciences. Rencontre aujourd'hui avec deux photographes professionnels pour comprendre leur rôle, leur démarche, leur sensibilité, leurs ambitions et l'impact de leur réalisation sur le public. Bonjour Christophe Jacquerot.
Bonjour.
Merci d'être présent avec nous aujourd'hui. Vous êtes photographe dit des intempéries, on va le comprendre pourquoi. Auteur notamment de Winterland, un livre paru aux éditions T-Noyes, après avoir aussi publié d'autres beaux livres avec vos photos. On peut mentionner New York in Black ou encore Snior, que nous pouvons bien sûr recommander, édité par Le Chêne.
Oui, Le Chêne. Il y a aussi Lost in the Beauty of Bad Weather. Je ne suis pas totalement responsable de ce titre qui doit être encore... en vente. Pareil chez T-Noyes.
Et avec nous également, mais en distanciel, Éric Bouvet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes photojournaliste de renom. Vous avez longtemps travaillé sur des terrains de guerre pour les plus grandes agences. Là aussi, nous allons le comprendre dans l'émission. Et votre dernier livre s'intitule « Élévation », le résultat de mois passés pendant 5 ans sur les flancs et les pentes des Alpes. Un livre paru aux éditions Photosynthèse. Nous pouvons également mentionner deux autres de vos très beaux livres, « Journal d'Ukraine » et « 40 ans de photojournalisme ». Bienvenue à tous les deux, bienvenue à nos auditeurs dans le magazine de l'environnement de France Culture, en partenariat avec le journal Le Monde, émission préparée par Célestine Babinet, avec Aurélie Marseille, Vanessa Chang, Anne Delaveau de Lina et les équipes de documentation de Radio France. Émission réalisée par Alexandra Malka, avec à la technique aujourd'hui, Noé Chaban.
Qu'on appuie là, 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 l'émotion monte et puis tout d'un coup, hop, ça y est. C'est comme un orgasme un peu, ça. Il y a un moment où ça éclate et puis ou on a le bon moment ou alors c'est raté. Parce que ça, on peut pas recommencer. Et le dessin est une méditation, parce que l'autre c'est le tir. Le dessin tu peux effacer, tu peux refaire un autre dessin. Tu n'es pas en prise avec le temps. Tu as tout ton temps, c'est une méditation. Parce que l'autre c'est comme ça, il y a une espèce d'angoisse perpétuelle de... d'être là, d'être présent.
Oui. C'était Cartier-Bresson, figure du monde de la photo, un extrait d'une archive INA et daté du 13 juillet 1994. Christophe Jacquerot, la photographie, vous l'apercevez comment ? Passion de gamin déjà ou pas ?
Oui, interrompue ensuite à l'âge de 19 ans et reprise à l'âge de 45 ou 46 ans. Mais il a raison Cartier-Bresson, c'est ça. Hein. Je pense que tous les photographes sont un peu pareils. Il y a une espèce d'excitation sur un moment très précis qu'on veut obtenir. Mmh. Parfois, c'est beaucoup de préparation, beaucoup de concentration. Parfois, ça vient comme ça. Mais si... Oui, un dessinateur, effectivement, un peintre, il peut... Moi, j'envie les peintres, d'ailleurs, parce qu'ils font ça chez eux, tranquille, il y a pas... Et en même temps, j'aime aussi ce stress d'aller la chercher, la photo, d'être sur le terrain, d'être ultra concentré pour arriver à sortir des images intéressantes.
Alors vous parliez aussi de cette enfance, hein, un petit appareil photo analogique, vous avez été offert à l'âge de 15 ans, je crois, et puis vous avez monté un laboratoire dans
oui,
la cave.
Oui, j'avais un petit labo dans ma cave poussiéreuse, qui la cave, elle devait faire 4 mètres carrés, avec les sols étaient en terre battue. Et j'avais monté mon petit labo là-dedans, avec un dust, mes petits bains, etc. Je faisais mes tirages et tout, mes petites expériences.
Et puis à 18 ans, allez, vous dites, j'irai bien voir du côté des courts-métrages.
Oui, voilà.
Vous avez donc réalisé des films avant de vous reconvertir à la photographie plus tard, vers 45 ans, et avec cette fois-ci une formation de photojournaliste. Le photojournalisme aurait pu vous happer ?
Oui, complètement. Mais la façon dont le métier s'organise aujourd'hui, Éric en parlera beaucoup mieux que moi, je me convenais pas. Parce que l'époque où vous partiez 3 semaines avec 10 000 euros pour ramener un super sujet, travailler, prendre tout son temps sur le terrain, à la Natchouet un petit peu, voyez, voilà, c'est fini ça. Et puis
ça s'est fini quand, vers les années
2000? À 45
2000
ans, je ne me voyais pas aller faire de la guerre ou des choses comme ça. J'aurais pas détesté. Hein. Après, il y a mille sujets en photojournalisme. Hein. Mais la façon dont le métier s'organise, les difficultés financières, etc., fait que, en fait, c'est surtout le hasard de la vie qui m'a amené à faire ce que je fais, en fait. Hein. Donc, je me suis un peu laissé porter par mes envies, mes instincts. Et puis, c'était une commande pour un guide touristique sur Paris. Il y avait 600 lieux à photographier et il faisait pas beau. Les premières images que j'avais ramenées étaient grises. Et ils m'ont dit, ah non, 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 il faut qu'il y ait une ambiance ensoleillée, c'est pas possible, c'est triste, etc. C'est les guides un peu à l'ancienne. Et donc, ok. Et donc, c'est comme ça que c'est venu, en fait. C'est un contre-pied, Paris sous la pluie. Je dis, mais Paris sous la pluie, Paris sous la pluie. Je suis sûr qu'il y a un univers visuel à dégager de ça, à travailler. Et donc, dès qu'il pleuvait, je faisais les images Paris sous la pluie. Et puis, dès qu'il y avait un rayon de soleil, je faisais les photos du guide.
Oui, parce que vous en avez quand même fait des photos sous le soleil.
Non, non, mais ils étaient super contents. Il m'a dit, mais comment vous faites? Parce que les autres photographes, ils ramenaient rien. Et je dis, ben, je sais pas. Il y a un soleil, je fais.
Mais il y a eu aussi ces photos sous la pluie. Et puis, ce goût pour les intempéries, nous allons en parler dans l'émission aujourd'hui. Il faut quand même rappeler qu'il y a la nécessité de la pluie, de la neige dans les équilibres de la planète et des écosystèmes, bien sûr. Éric Bouvet, de votre côté. Alors, tous les deux, on peut dire, vous êtes de la même génération. Je peux donner vos dates de naissance, quand même? Christophe Jacquereau, né en 1960. Éric Bouvet, en 61. Éric Bouvet, un soir de juillet 1969, un événement exceptionnel a déterminé votre devenir.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
21 juillet 1969, Éric Bouvet, vous vous en souvenez, vous aviez 8 ans.
J'ai le sourire aux lèvres parce que c'est extraordinaire. Quelle force de cet événement que j'avais regardé sur ce petit écran noir. Et je suis sorti tout de suite pour voir la lune là-haut et me dire, il y a des petits bonhommes là-haut. C'était quand même incroyable. L'événement, la force de l'image, l'impact. Et puis, les mots d'Armstrong, enfin, tout était réuni pour que ça reste peut-être dans un coin de mon petit cerveau à ce moment-là, et que plus tard, je devienne bon en histoire, géographie, dessin, sport. Le reste, beaucoup moins bon. Et du coup, voilà, je me suis orienté sur de la géopolitique, l'histoire, puisque ce que les gens ne s'imaginent pas, c'est que en fait, on vit l'histoire. L'histoire contemporaine. Ce qu'on a vécu là ces derniers temps, pour ne citer que ça, par exemple la pandémie, la crise des gilets jaunes, on va en parler comme on parle aujourd'hui de mai 68 par exemple. Donc voilà, les gens se rendent pas compte, on vit l'histoire en direct. Et moi c'est ce qui m'a passionné, c'est de pouvoir aller sur les sites, dans les événements internationaux ou les conflits, et de vivre cette histoire en direct. Et j'ai trouvé ça beaucoup plus passionnant pour essayer de comprendre comment fonctionne l'humain. Et du coup, ça a été une carrière très très riche et extraordinaire. Mais je dirais, par rapport à ce que disait Christophe, c'est que tout ce petit monde-là s'est un peu écroulé en 2000, grâce à cause de la technologie qui est arrivée, qui s'appelle numérique et Internet, qui ont complètement bouleversé le marché, mais qui ont permis une nouvelle photographie extraordinaire avec des jeunes gens, une nouvelle génération, qui ont transformé la photographie beaucoup plus riche que celle que je faisais, ça c'est sûr.
Ah oui. Alors depuis cet alunissage d'Apollo 11, le 21 juillet 69, comme vous le dites, vous êtes tourné vers le photojournalisme en étant jeune adulte. Et ce photojournalisme va vous emmener à travers le monde, sans être à l'époque, il faut quand même le rappeler, sensible au sujet environnement qui n'était pas pleinement dans les préoccupations collectives du moment d'ailleurs, en dehors des scientifiques. On est quand même dans ces années 80, l'âge d'or du photojournalisme. Et vous avez travaillé pour Times, Life, Gamma et arpenté de très nombreux terrains arpentés. Avec quel type de conflit, et finalement, vous allez vivre dans quel pays ces guerres qui ont meurtri quand même des zones géographiques dans le monde?
Vous savez, on est, même avant que ce soit, entre guillemets, je suis désolé d'utiliser ce mot un peu à la mode, de parler d'un seul coup que le monde se réveille sur l'écologie et tous ces problèmes environnementaux. Nous, on était confrontés à ça, toujours, parce que la guerre, ça fait du dégât, évidemment, humainement, mais aussi au niveau de la planète. Donc, on était un petit peu très souvent abasourdis et bien évidemment, l'humain passe avant tout et on se préoccupait de l'humain. Alors que ce soit en Somalie, que ce soit en Tchétchénie, que ce soit en Afghanistan, j'ai toujours été un amoureux de la nature. Quand je me rendais plus jeune, alors en sortant de mon petit confort à l'occidental d'Européens et Français, donc je me retrouvais au fin fond de l'Inde, par exemple, qui sont un des pays les plus pollués, c'est des grosses claques. Et là, effectivement, on se rend compte, on s'en rendait compte avant l'heure, mais bon, il y avait des écologistes qui faisaient du bon boulot déjà, hein, mais on avait l'impression qu'ils parlaient dans le vent, on les prenait pour, je vois bien en politique, moi je me souviens très bien, on les prenait un peu pour des doudingues, quoi, et bon, ils sont gentils, voilà, ils font 0,5% aux élections présidentielles, formidable, ils font de mal à personne, quoi. Mais aujourd'hui, voilà, bah, l'écologie, elle est devenue beaucoup plus combative, et il y a des gens qui sont beaucoup plus dans le combat, et effectivement, parfois, ça prend un aspect un peu violent pour se faire entendre, c'est assez tragique. Je cautionne pas, hein, la violence, en aucun cas, mais je dis pas qu'il faut en arriver là pour avancer, hein, mais voilà, il y a des jeunes gens qui sont beaucoup plus engagés. Et d'ailleurs, hop, je saute sur l'occasion. Tout à l'heure, vous parliez de passion pour notre métier de photographie.
Oui.
Moi, je vais un petit peu plus loin, je dirais que c'est un engagement. Parce que on y laisse quand même des plumes, que ce soit physiquement ou psychologiquement, et on n'est pas en train de faire du macramé ou de jouer à la pétanque. C'est pas une passion, c'est un engagement total. Ça marque, ça laisse des traces.
Et nous allons le comprendre aussi à travers votre témoignage, Éric Bouvet. Alors, je précise que vous parliez d'humain. Autour de vous, il y a une petite fille, hein, Joséphine, qui est votre petite fille, justement, qui s'exprime aussi dans notre émission. Donc, témoigner, ce que vous dites, hein, Éric Bouvet, hein, c'est renseigner, servir l'histoire. Des témoignages, des traces, des preuves aussi. Mais il faut avoir la capacité, hein, de tenir sur ces terrains de guerre, malgré les blessures et ces images qui peuvent vous hanté. Avant d'en parler un petit peu plus longuement, je vous propose d'écouter cet extrait de l'émission Book Club avec Olivier Weber. C'était sur France Culture le 20 septembre 2022.
D'écrire, c'est aussi dénoncer la guerre par le roman ou par le reportage. Donc oui, c'est vrai que c'est un peu le revers de la question. C'est que c'est peut-être une manière plus personnelle aussi de sortir les démons qu'on a en nous. Quand on a vu la guerre, on est témoin, donc on en est victime quelque part. Et ce sont des cauchemars, on a envie tant mieux, mais on laisse des amis sur place, on laisse des peuples sur place. Moi, je reviens juste avant l'Ukraine, j'étais à la frontière afghane, je suis traumatisé par ce qui se passe en Afghanistan, avec voilà, ces femmes qui n'ont plus le droit de rien faire, qui sont engagées. Le terme a été donné d'ailleurs par un Afghan en français, l'engagement de nos femmes par les talibans. Et voilà, je crois que là aussi, le roman ou la relation, quelle qu'elle soit, de réel ou de fiction, permet justement de dénoncer cette folie des hommes.
France Culture, de cause à effet, Aurélie Luneau.
Éric Bouvet, vous entendez ce témoignage de l'écrivain Olivier Weber dans le Book Club sur France Culture le 20 septembre 2022. Il parle de dénoncer la folie des hommes, mais il parle aussi de sortir les démons. Comment est-ce que vous vous sentez, vous, après ce parcours, hein, ce long parcours pendant des années, sur des terrains de guerre, avoir un physique, un mental, vous avez été victime de balles perdues 5 fois, des explosions 8 fois, il faut tenir face à l'absurdité des guerres et la folie des hommes.
Oui, alors, c'est amusant que ce soit Olivier Weber, puisqu'il a eu, il m'a gentiment fait la préface du livre Élévation, dont on parlait tout à l'heure, sur la montagne. Et Olivier a tout à fait raison, c'est compliqué. J'ai la chance d'avoir, dès le début, décidé de tout effacer. Alors que ce soit les tortures, les exécutions sommaires, les famines, ça c'est terrible. J'ai cette possibilité, ça existe, hein, j'en parle, je fais plein de conférences, j'explique. J'ai la chance de jamais faire de cauchemar. Moi, ça a toujours été ma famille. Voilà, mon ciment, ma famille. Et c'est, je sais que je suis revenu, j'ai lâché souvent pour revenir. Et s'ils n'avaient pas été là, oui, je serais allé plus loin. Et soit je serais certainement, vulgairement, ce qu'on peut dire, devenu fou, ou alors je ne serais plus là. Oui, ça c'est sûr. Donc c'est grâce à eux que je mène une vie, mais alors totalement classique. Je vais chercher ma baguette le matin, je sors faire pisser le chien, comme on dit. Voilà, et tout va bien.
Christophe Jacquereau, vous entendez le témoignage d'Éric Bouvet, des conflits, des crises qui ont tendance à faire oublier aussi une autre guerre, hein, celle à mener contre le réchauffement climatique. Vous n'êtes peut-être pas forcément, vous, un photographe en guerre contre le réchauffement climatique, mais vous participez justement à cette façon de nous donner à voir la planète, les intempéries et les paysages d'une autre manière. Vous avez commencé par les saisir dans les mégapoles. Pourquoi ce choix des villes que vous avez grandement, vous, arpenté de votre côté ?
Alors, après Paris sous la pluie,
Je suis parti à Shanghai d'abord, parce que j'avais très envie, je fantasmais sur Shanghai. Je suis resté un petit moment là-bas, chez un Français qui vivait à Shanghai. Je voulais faire autre chose que du mauvais temps. Et puis je trouvais pas, je galérais un peu, je trouvais pas mon truc, quoi. Et puis un jour, il a plu. Et je sais pas pourquoi, je revivais, quoi. J'ai adoré. Et je lui dis, bon, ben on va peut-être continuer cette histoire de pluie, parce qu'après tout, c'est pas un terrain qui est si travaillé que ça. Shanghai, à l'époque, c'était un chantier géant. Donc c'était compliqué, trouver des images, etc. Alors que la ville était très intéressante. Et j'avais vu qu'il y avait Hong Kong pas loin, donc je suis allé repérer Hong Kong, on était en février. Et là, j'ai complètement flashé sur cette ville. Parce que c'est une densité, c'est un concentré d'urbanisme, elle est d'une photogénie sans nom. Et Hong Kong, c'est une de mes villes vraiment préférées au monde. Et il y a une mousson, où il peut tomber 100 mm de pluie en une heure. C'est ce qui m'est arrivé. Donc j'y suis retourné deux fois, j'ai fait deux fois, trois semaines là-bas, 15 jours. Et puis j'ai ramené une série qui s'appelait Hong Kong sous la pluie. J'ai beaucoup aimé faire ça.
Donc Paris, Shanghai sous la mousson, Hong Kong sous la pluie, New York, Chicago sous les tempêtes de neige, Tokyo, Boston, Bucarest, Lisbonne, Le Havre. Après, ça, c'est vraiment sur le travail avec la pluie, hein, j'entends.
J'avais fait un livre qui s'appelait Météor. C'était tout ce qui tombait du ciel. Évidemment, les tempêtes de neige m'intéressaient. Et pourquoi New York? Parce que c'est deux puissances qui s'affrontent. Parce qu'à New York, il y a des vraies tempêtes de neige. Il pouvait, parce que justement, il y en a beaucoup moins maintenant. Il pouvait tomber 30 centimètres en une nuit avec des vents effroyables, hein, de la vraie tempête, quoi. Et New York est aussi une ville d'une puissance, d'une arrogance, qui s'arrête jamais, ouais. Qui résiste à tout.
Sauf aux intempéries.
Peut-être allusion au blackout, je pense.
Oui, ou alors l'ouragan Sandy aussi, voilà, enfin, la tempête Sandy.
Qui a coupé courant sur la moitié de la ville.
Exact. Donc, Manhattan dans le noir.
Une puissance aux pieds très fragile. Moi, très égoïstement, c'était un moment impressionnant pour moi, parce qu'on ne se rend pas compte de ce que c'est qu'une ville sans lumière. Donc j'ai arpenté les rues de New York plusieurs soirs d'affilée, j'ai reculé mon vol pour faire ces images. Mais là encore, je travaille beaucoup par instinct. J'écoute mes envies, je réfléchis aussi beaucoup, je prépare énormément.
Et alors, vous travaillez aussi avec des alertes, les alertes météo?
Quand je suis en éveil, on va dire, comme c'est le cas en ce moment, là, j'ai deux, trois sites qui me donnent les tendances de la météo sur la planète entière. Sauf que, pour plein de raisons, si demain il y a une tempête à Tokyo, je peux pas y être. Parce que les prévisions, j'adorerais, mais d'abord, bon, c'est très moyen en termes de...
D'empreinte
carbone. Et puis, si on met ça de côté, il y a 12 heures de vol, il y a 8 heures de décalage horaire, et les prévisions météo, surtout pour les tempêtes, ne sont fiables, sont même 48 heures à l'avance, c'est pas encore fiable. Donc, vous arrivez là-bas épuisé, décalage horaire, et or, il faut être en pleine forme, il faut être à 120% de ses moyens pour arriver à sortir quelque chose. Donc, je l'ai fait, hein, je me suis amusé à faire ça pour un typhon à Osaka. J'étais fatigué, je trouvais pas les images, j'étais moyennement dedans, donc je me dis ça a pas de sens.
En sachant que typhon, ouragan, vous courez pas après quand même, hein.
Alors,
marquez, vous pourriez pas.
Mais si, alors, en fait, tout est une question de limite et de dosage. J'ai failli une fois, il y avait un ouragan à Miami. Sauf qu'ils annonçaient des vents de 250 km/h. Enfin, c'est passé un peu plus au sud. Là, j'y vais pas, bien sûr. Les tempêtes normales, on va dire, m'intéressent, me fascinent. Elles sont indispensables. Les tempêtes extrêmes, on bascule dans autre chose. Et puis là, je risque ma peau, hein. Des vents de 250 km/h, faut pas mettre le pied dehors, là.
Qu'est-ce qui vous a fait quitter les grandes villes pour aller vers des grands espaces, passer aussi de la pluie à la neige?
Toujours pareil, mon instinct. Après avoir arpenté les rues de New York et d'autres villes, j'avais envie de grands espaces, j'avais envie de... Puis aussi, il y a un truc comme photographe, c'est les voitures. Les voitures et les chasse-neige. Pour moi, c'est l'ennemi numéro un. Alors, si les voitures sont toutes blanches, ça va, mais si elles ne le sont pas, c'est compliqué de gérer ça. Et puis, les chasse-neige aussi qui vous pourrissent un peu votre décor, même si vous levez à 2h du matin, il y a des villes, ils tournent toute la nuit, c'est un peu du n'importe quoi d'ailleurs. Donc, pour moi, les grands espaces, la nature, il n'y a plus de chasse-neige. Enfin, c'est autre chose, c'est d'autres contraintes, c'est une autre approche, c'est compliqué le paysage aussi. Hein.
La première fois que vous avez fait ces photos avec la neige, ce n'était pas forcément au bout du monde, hein. Je crois qu'il y a eu Étretat en hiver sous la neige. Ça a été peut-être un moment qui vous a fait réfléchir?
Je rentrais d'un voyage, je crois que c'était Boston, où justement la météo m'a planté. Enfin, les prévisions n'étaient pas si bonnes que ça, donc j'étais rentré frustré, j'avais dépensé de l'argent. Et puis, une semaine après, il y a eu une vraie tempête de neige qui était annoncée sur Étretat, enfin toute la côte du Nord-Ouest. Hein. Il est tombé 20 cm de neige quand même. Hein. Et j'ai ramené quelques images, j'ai dit, ouais, super, à 2 heures de la maison, voilà.
Mais circuit court. Hein.
Il n'y avait personne, c'était extraordinaire. C'est étonnant parce que c'était un moment vraiment magique, ce paysage, ces falaises, cette plage. Et il n'y avait personne. Je lui dis, j'ai peur qu'il y ait du monde, les gens vont venir admirer. Eh ben, il y avait absolument personne. Le seul personne que j'ai vu, c'est un gars qui promène son chien, que j'ai pris en photo. Et ça, ça m'a étonné. Alors, tant mieux pour moi. Puis je lui dis, merde, les gens, ils restent enfermés chez eux, ils viennent pas admirer ça, ils viennent pas.
Bon. Alors, et je me tourne vers Éric Bouvet. Vous voulez donner un conseil, peut-être, à Christophe Jacquerot ?
Alors, si je peux me permettre, Christophe.
Oui.
Il faut que tu arrêtes tous ces alertes météo et tout ça. Il suffit que tu saches quand est-ce que je vais faire une course de vélo de 200, 500 ou 1000 km et tu peux être sûr qu'il va pleuvoir.
C'est vrai en plus, parce que je le suivais sur Instagram et tous ses posts étaient sous la flotte, quoi. Tout sous la flotte, sous la flotte. Je dis, ça va pas là, il y a une erreur là.
Faut travailler ensemble, hein, définitivement.
J'ai des copains qui regardent où je m'inscris et ils disent, non, il va pas. J'ai eu énormément de chance dans ma vie, puisque vous l'avez cité tout à l'heure, mais c'est ridicule par rapport à tout ce qui a pu m'arriver, mais je sais que c'était un peu indélicat parce que j'ai perdu quand même pas mal d'amis, des gens que je ne connaissais pas qui étaient à côté de moi, qui se sont effectivement tués ou blessés, et moi je sortais toujours indemne, et il y avait quelque chose qui tournait bizarrement dans ma tête à ce niveau-là, quoi. Donc effectivement... c'est jamais très bon d'être à mes côtés, en fait. j'ai pas de bonne compagnie.
C'est un truc, j'ai vu War Photographer de Natchway, et c'est étonnant, quoi, cette espèce de capacité d'être invisible, de passer entre les balles, de se fondre, de faire corps avec la guerre, parce que c'est ça, hein, et c'est pareil quand vous photographiez une tempête, hein. Salgado le disait d'ailleurs, il faut faire corps avec son sujet, il faut devenir guerre, il faut devenir neige, il faut devenir tempête, il faut devenir un peu ça. Et donc Eric, visiblement, a cette capacité de...
Mais c'est ce qu'on fait tous, Christophe, et toi y compris.
Oui, non, mais c'est ça. Mais dans la guerre, j'ai beaucoup plus risqué dans la guerre, hein, donc.
Oui, mais bon, là, le risque, on va pas trop en parler parce que personne nous force à y aller.
Non, on est d'accord.
Il y a un truc dans les rédactions, c'est que c'est le seul sujet qu'un journaliste peut refuser de la part d'un rédacteur en chef, c'est d'aller sur un conflit.
Ben ouais.
Voilà, c'est le seul sujet qu'il peut refuser. Tous les autres, il n'a pas le droit de refuser. Voilà, bon entendeur, salut. Pour... tu disais, on fait corps, mais moi je dis, quand je donne des cours, je dis, faut apprendre à danser avec son sujet.
Oui, exactement.
Voilà.
Mais Natchway, il danse. Quand vous regardez Natchway sur le terrain, dans ce fameux film War Photographer, qui est extraordinaire, il danse. C'est très étonnant. C'est un grand échalas, comme ça, un peu comme Eric, tout mince. Ouais, il danse. C'est très étonnant, quoi.
Tu précèdes, en fait, ton action. Tu la devines, tu sais où il faut te placer, où le personnage va se bouger.
Oui, enfin, bon. C'est l'art de l'anticipation aussi. Hein.
C'est ça, danser, Eric Bouvet. C'est ça, c'est se mouvoir d'une telle manière que vous pouvez être opérationnel sur ces terrains de guerre.
Ouais, tout à fait. Alors bon, c'est un peu tragique, ça aussi, ce que je dis, parce que ma pauvre femme, je suis un piètre danseur, je pense que c'est un de ses grands regrets pour moi.
En tout cas, à l'image de Christophe Jacquerot, vous aussi, hein, Éric Bouvet, vous allez basculer dans ces univers de nature à côté de chez vous et vous allez vous tourner vers les Alpes.
Plume à gauche, là, allez.
Guide de haute montagne, spécialiste des cascades de glace, François Damilano a fait ses débuts ici même, au pied du glacier des Bossons.
Jusqu'à la fin des années 80, on pouvait venir avec nos compagnons, avec nos clients, dans cette plaine qui est aujourd'hui reprise par la forêt, par la végétation. On posait nos sacs, on chaussait les crampons et on montait sur la glace. Le glacier venait jusqu'ici, là. Et ça, c'est dans une échelle qui est, pour moi, extrêmement courte, puisque c'est dans un morceau de vie d'alpiniste. On n'est pas dans des temps géologiques. On est à une échelle humaine extrêmement courte. Et c'est ça qui est impressionnant pour nous qui voyons la montagne évoluer chaque jour.
Éric Bouvet, donc c'est un reportage diffusé sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes le 18 novembre 2019. De votre côté, les Alpes sont entrées dans votre travail ces dernières années. 5 ans hein, à arpenter les faces, les pentes des Alpes. Un travail sur les cols transfrontaliers des Alpes françaises. Qu'est-ce que vous avez voulu montrer et qu'est-ce que vous recherchiez peut-être vous-même dans ce travail ?
Alors, les Alpes, c'est un grand mot. J'aurais bien voulu, dès le départ, oui, faire tout l'arc alpin, mais bon, c'était trop long. Je me suis cantonné à faire que le massif Mont-Blanc, que je connais très bien, et c'est pour ça. Et je vois le nombre de fois où je suis monté pour rien, à cause de la météo, très souvent, évidemment. Et du coup, je me suis rendu compte que c'était, il fallait rester sur ce petit, entre guillemets, massif du Mont-Blanc, et pas aller plus loin. On parlait de nature, bien entendu, tout à l'heure. Et moi, je suis un émotif. Hein, je suis un type qui a passé son temps à laisser des litres de larmes sur le terrain. Je ne vous parle même pas de vomir ou d'autre chose. Donc l'émotion est vraiment quelque chose de... Je suis un peu à fleur de peau et c'est vrai que dans la nature, en faisant ce sujet, parce que je n'arrivais plus à partir en fait, parce que la presse, bon, a subi quelques coupes budgétaires, enfin bref, on ne va pas revenir là-dessus, et du coup, il a fallu que je trouve autre chose. Et aimant la montagne, aimant la photographie, je me suis dit, allez hop, on va emporter un sac de 20 kilos avec une chambre grand format et je vais faire des images de cet endroit que je connais pas trop mal. Et je me suis retrouvé un nombre de fois tout seul, perdu, au petit matin ou sous les orages, là c'était beaucoup moins drôle, mais avec une émotion, mais à pleurer devant la force de la nature. La force de la nature, les éléments et cette roche qui est là, qui est... Pour moi, c'est entre 2000 et 3000 mètres le plus intéressant, parce qu'il n'y a plus d'herbe, il n'y a plus rien qui nous rappelle notre vivant. Le vert, hein, qui est la couleur la plus positive. Au-dessus, c'est du blanc, donc ça reste aussi du positif, le blanc. Bon, il fait froid, mais on peut faire un trou dans la neige, on peut s'abriter. La roche, il n'y a rien. C'est du pur et dur. On ne triche pas avec la roche. Elle est là, et elle est là depuis des millions d'années. Alors que l'herbe, bon, elle repousse, elle passe, elle vient, la neige, pareil. La glace est là depuis aussi longtemps, mais elle n'est pas toujours à notre portée. Mais la roche, où que vous ayez, elle est là depuis des millions d'années. C'est extraordinaire.
Et là, vous êtes à l'opposé des obligations du photojournalisme. Hein. Vous êtes dans un monde de silence, en général, se mettre à l'affût, être dans cette immensité, se sentir tout petit, sentir aussi que face à ces cathédrales de pierre et de roches, il y a une certaine vulnérabilité hein, des paysages. Ça vous a donné envie de montrer quoi dans les photos ?
Oui, c'est bien que vous parliez de ce silence, parce qu'effectivement, ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est ce qu'ils connaissent pas en général. Et quand on est sur une zone de conflit, sur un front, le bruit des détonations, des armes, que ce soit de l'arme automatique ou des grenades ou des obus qui tombent, ou bref, c'est effrayant. C'est d'un stress, mais monstrueux. On ne se rend pas compte, hein, on perd ses oreilles très très facilement. Et là, effectivement, je me retrouve au milieu de paysages dantesques parfois, et c'est ce que je recherchais moi aussi. Alors, c'est peut-être ce qui nous lie, Christophe, là-dessus. Moi, je voulais pas de pluie parce que là, avec la chambre grand format, c'est compliqué. Mais je cherchais des gros nuages, des gros mauvais temps pour meubler ces ciels et donner une force encore plus esthétique à la montagne. Et je me suis trouvé dans ces silences, mais incroyables, et tout seul. Et c'est toujours pareil, c'est tout ce qu'on ne connaît pas. Quand on se retrouve projeté dedans, on se rend compte de la force des choses. Et je pense que qui que l'on soit, si je peux dire, on nous met dans ces situations en contact seul avec la nature, on comprend beaucoup de choses, quoi. On se rend compte qu'on n'est pas grand-chose et que c'est nous qui faisons du mal.
Est-ce que vous diriez que ça vous a permis, Éric Bouvet, d'évacuer les souffrances auxquelles vous aviez assisté comme une sorte d'échappatoire ?
Moi, j'ai jamais eu, comme les militaires, un sas de décompression et tout ça. Je sautais dans le premier avion tout de suite et je rentrais et voilà, je retrouvais cette famille qui m'est extrêmement chère. Grâce à ça, et je tiens encore aujourd'hui parce que effectivement, c'est devenu très compliqué professionnellement et du coup, cette famille est là et elle me pousse encore, elle y croit et donc je continue des sujets plus doux, si je peux dire.
Et vous avez la famille de tous ceux qui admirent vos photos aussi, hein, ce très bel album Élévation qui nous offre ces photos de prises dans les Alpes. Et nous allons avoir l'occasion de revenir aussi sur la technique. Mais je me tourne d'abord vers vous, Christophe Jacrot, parce que ces paysages de montagne, loin de tout, hein, avec le silence, vous les connaissez bien. Vous avez décidé de partir dans des zones, soit très loin, soit à côté de chez vous, hein, puisque vous pouvez nous parler du Vercors aussi. C'est votre lieu de vie, je crois, la petite Sibérie, un plateau avec des routes creusées à la main au 19e siècle, mais de la même façon, Groenland, la Sibérie, l'Islande aussi.
Oui, alors j'ai habité la Drôme, donc j'étais à une heure des coins intéressants du Vercors. Mon rêve, c'est de pouvoir dormir dans le décor, en fait. C'est pas toujours possible, c'est compliqué. Aux îles Féroé, j'ai pu, mais qu'au troisième voyage. Donc j'ai pu faire une photo que j'aime beaucoup, que j'aurais jamais pu faire autrement, un mouton tout seul au milieu, comme ça, dans ce village où les cinq habitants dormaient. C'est toujours pareil, c'est une histoire d'instinct, de passion, d'attirance, beaucoup. Pour moi, il y a quelque chose de mystérieux quand il pleut, quand il neige. Pourquoi il pleut? Pourquoi il neige? C'est vrai, quand on pense, c'est quoi ces flocons qui tombent? C'est quoi? J'ai envie de rentrer là-dedans, ça m'attire beaucoup.
Et les choix des pays que vous avez...
Alors les choix des pays, c'est par... D'abord, je choisis des pays où il neige beaucoup, où il pleut beaucoup. Donc, zone de mousson pour la neige, évidemment. L'Islande, c'est un peu le pays de la neige. Les pays du Nord, le Groenland, le Nord du Japon, où j'envisage de retourner, où il neige énormément. Et c'est étonnant parce qu'il, d'ailleurs, enfin, je fais une parenthèse, mais au Japon, il neige énormément dans le Nord et ils ont des voitures qui sont à 5 cm du sol, quoi. Ça, je comprends pas. Alors qu'aux États-Unis, où il neige aussi, il fait froid, ils ont tous des pick-up qui sont à 1,50 m de hauteur. Et au Japon, ils roulent tous avec des Toyota qui sont extrêmement basses. Quelque chose qui m'échappe, là. Mais bon.
Comment on fait? C'est-à-dire, est-ce que il y a des difficultés particulières pour saisir justement la neige, notamment ce blanc? Ce que l'on retrouve aussi dans vos photos, tous les deux, c'est quand même la grande présence du noir et du blanc, même s'il n'y a pas que le noir et le blanc, Christophe Jacquroux, dans vos photos. Parlez-nous peut-être de ce que vous réalisez et avec quels moyens. Est-ce que le vent, c'est un ami ou un ennemi du photographe?
Les deux. Si vous êtes face au vent, votre optique est recouverte de neige en 10 secondes. Donc il faut redresser l'appareil qu'à la dernière seconde. Il faut pouvoir l'essuyer tout le temps. Si vous êtes dos au vent, pas de souci.
Vous travaillez avec quoi de votre côté puisqu'on en
Moi, je travaille
parlé.
Avec un. Alors moi, je suis beaucoup plus léger qu'Eric. J'ai des problèmes de dos, etc. Donc j'ai un 5D, enfin un full frame, voilà, Canon. Il fait 1 kg, l'appareil. Dessus, j'ai un zoom. Alors, les pros vont hurler, mais c'est le couteau suisse, si vous voulez. Donc, j'ai pas à changer d'optique. Parce que, allez changer d'optique quand ça se déchaîne autour de vous. Ça fait 2 kg l'ensemble. Donc, j'ai ça à bout de bras. Je fais corps avec cet appareil. C'est presque une prolongation de moi-même, quoi. Et c'est bien parce que c'est pas lourd. Et en même temps, ça fait quand même des très très bonnes images, quoi.
Mais il faut éviter les chocs thermiques, on imagine, adapter les appareils aux conditions climatiques, hein, les températures extrêmes, les taux d'humidité, les gelées, c'est adapter les corps et les appareils.
Alors, les appareils photos sont beaucoup plus solides que nous. Il y a deux difficultés. Il y a les mains, la main droite, garder l'agilité sur l'obturateur. Donc j'ai ma petite technique, la main gauche, il y a un trait. Alors déjà, la boîtier, il est couvert par une sacoche en plastique qui fait coupe-vent. Et l'air de rien, ça change énormément. Vous gagnez 10 degrés avec ça. Donc la main gauche, elle est sous un gros gant. Jusqu'à moins 10, c'est jouable comme ça. Elle est sur un gros gant avec deux épaisseurs si besoin, enfin un gant de soie. Et la main droite, j'ai un ou deux gants de soie l'un sur l'autre pour garder l'agilité. Voilà. Et puis il y a le corps aussi, à un moment, il s'habitue aussi. On arrive à... Dans un premier temps, on a très froid, donc il faut se réchauffer. Puis dans un second temps, ça passe, on s'est acclimaté, c'est assez étrange phénomène. Donc, première difficulté. Deuxième difficulté, c'est les chocs thermiques, dans les deux sens, en hiver comme en l'été, en période de mousson. Si vous sortez d'un hôtel climatisé ou d'un endroit climatisé à 19 degrés, que vous sortez dans une ville dehors, vous avez 90% de taux d'humidité, là, c'est ouf, tout se couvre de buée instantanément, y compris l'intérieur de l'optique. Donc là, quand vous arrivez, après, c'est fini. Il faut 2 heures pour que ça sèche. Et pareil, à l'autre sens, vous êtes dehors sous la neige, il fait moins 2, moins 3, moins 5. Et vous rentrez dans un endroit très chauffé, par exemple, un café, un restaurant, n'importe, chauffé et humide. Et là, pareil, ouf, tout se couvre. Donc, il faut faire très attention, donc il faut gérer ça. Quand j'étais à Hong Kong, par exemple, je coupais la clim 2 heures avant. Je mettais le boîtier dans le sac pour que ça remonte en température doucement, éviter les chocs.
Et alors, je parlais du noir et blanc, mais la neige, elle n'est pas blanche immaculée, elle a des couleurs.
La neige, elle a la couleur de la lumière qui est autour. Donc si vous avez un coucher de soleil, il va être un peu orange. Le petit matin, c'est très bleu. Alors ça, c'est une bonne question parce que l'Islande, la lumière est très basse. Et donc, il y a une dominante bleue qui émerge systématiquement. Et je me dis, qu'est-ce que je fais de ça? Et quand moi, je suis dans le narratif, dans le ressenti, je me dis, moi, pour moi, la neige, elle est blanche. Si je demande à n'importe qui de quelle couleur est la neige, tout le monde va me dire blanc. Donc du coup, je la décolore en fait. Je dose ça dépend si c'est un coucher de soleil, mais je ne fais pas de coucher de soleil. Chez moi, c'est interdit. Mais en général, je la blanchis parce que je veux qu'elle soit blanc. Pour moi, la neige,
donc,
c'est blanc.
Vous retravaillez légèrement, mais pour répondre à une esthétique.
Voilà, pour éviter les dominantes. Je déteste les dominantes bleues. J'aime pas du tout ça. Donc j'essaye de trouver le bon équilibre entre l'ambiance bleutée, si on est dans une ambiance bleutée, et ce qui est le cas de la couverture du livre, par exemple. Il y avait une très grosse dominante bleue que j'ai éliminée. Vous voyez la neige aussi, jusqu'où je la blanchis, jusqu'où... pour trouver le bon équilibre et surtout le ressenti, ce que moi j'ai vu, ce que j'ai ressenti et ce que je veux raconter et retranscrire.
Et alors, certains de nos auditeurs vont se demander pourquoi vous interdisez les couchers de soleil ?
J'ai pas de réponse à ça, en fait.
Il y en a trop ?
Oui, ouais, c'est ça. Non, mais c'est très beau. comme ça, moi j'adore, j'ai la chance d'avoir si vous avez le soleil qui traverse votre maison le soir, c'est magique, c'est, j'adore ça.
Mais bon, vous préférez le froid, le blanc, le silence, la pureté de la nature, sa fragilité.
Ça m'intéresse pas. Ouais.
Une ode à l'hiver, en tout cas, avec vous, Christophe Jacquerot. Éric Bouvet, de votre côté, alors quelles sont les difficultés les plus grandes à surmonter dans votre travail mené dans ces parties des Alpes?
C'est pareil, hein, c'est le problème, c'est le froid. Et du coup, j'ai appris à être moins prétentieux dans le temps, c'est-à-dire que moi, malheureusement, c'était des chambres grand format à l'ancienne, donc ces gros appareils à soufflet qui mettent du temps à installer, tout est très gros, lourd, supporte pas la pluie. Et quand il y a du vent, bah, il y a une portée, une prise de vent, enfin bon, c'est quand même assez compliqué. Et je vous parle même pas de l'amener là où il faut l'amener. Hein. Donc, quand vous avez 2300 mètres de dénivelé à vous cogner,
faut être sportif.
Avec 20 kilos sur le dos, c'est pas drôle. Et la redescente, c'est encore moins drôle. Donc, du coup, ce que j'ai appris, c'est d'attendre le moment où je me dis, allez, ça va tenir. J'ai froid aux doigts, mais c'est bon. C'est maintenant. Voilà. Ça y est, j'ai fait ma photo. Et là, mes doigts sont arrivés au maximum de ce que je pouvais attendre, c'est-à-dire que ça y est, je pleure et je me tape les doigts tellement c'est dur, et là, eh ben, j'ai plus de doigts pour ranger le matériel. Donc j'ai appris à pas attendre le dernier moment pour pouvoir ranger le matériel, parce que j'ai eu envie de tout balancer dans le ravin.
Mais oui, mais quel talent hein, pour saisir le monde dans ses éléments naturels, la force, la folie de la nature, et puis des images qui sont comme des dessins. Vous travaillez vraiment tous les deux comme des peintres. C'est Björk, Come to me. C'est votre choix musical, Christophe Jacquerot. Peut-être que vous pouvez nous l'expliquer d'ailleurs.
En Islande, sur les routes islandaises, en plein hiver, il n'y a absolument personne. Et vous mettez Björk. Et là, vous comprenez d'où sort cette fille. Il y a quelque chose de tellurique dans sa voix, dans sa façon, dans sa musique. Et ça fait une osmose avec les paysages qui est juste C'est extraordinaire, c'est magique. Faut écouter Björk en Islande, en hiver, sur les routes enneigées, à pied, où vous voulez. Et là, on comprend sa musique.
Alors, restez dans cette magie. Vous êtes bien dans De Cause à Effet, le magazine de l'environnement sur France Culture. Et sur le thème de la planète dans l'œil des photographes, nous poursuivons notre émission Regards croisés en compagnie de nos deux invités, deux photographes professionnels, Christophe Jacquereau, dont le dernier livre s'intitule Winterland, paru aux éditions Tinoios, et Éric Bouvet, auteur du livre Élévation, paru aux éditions Photosynthèse. Éric Bouvet, vous avez photographié beaucoup d'humains, mais là, dans vos dernières photos, les silhouettes sont très rares. Je crois qu'il n'y a que deux photos sur lesquelles on aperçoit une ou deux silhouettes.
Oui, effectivement, dans tout le livre, il n'y en a que trois. Oui, c'est une grande première pour moi, voilà. Ça s'appelle un virage, peut-être.
Christophe Jacquereau, de votre côté, la présence aussi des silhouettes, elle est furtive. La place de l'élément humain, quasi minimale. Alors, on voit quand même des populations habituées à ces conditions extrêmes, ou des femmes en talons aiguilles dans la neige, en Russie, ou dans la pluie à Paris. Est-ce qu'il y aurait une volonté de traduire l'humilité des humains face à cette nature grandiose, puissante,
entre autres,
dangereuse?
Ou des femmes qui déneigent au Japon, ça m'a frappé la journée, vous avez que des femmes qui déneigent, parce qu'elles ne travaillent pas. Et quand il tombe 70 cm de neige dans la journée, il faut déneiger au fur et à mesure, sinon vous êtes battu. Et j'étais frappé de voir que des femmes qui déneigeaient avec des énormes pelles. Parce que c'est lourd la neige. Hein. Donc j'admire les photographes comme Eric par exemple, qui lui vont vraiment dedans. Quoi. Moi je le maintiens à distance, aussi parce qu'effectivement on n'est pas grand-chose. Il y a cette humilité. Mais j'ai quelques photos. J'ai une photo à New York d'un homme qui tient ses deux caniches...
Sous
le bras, il neige très fort comme ça, il porte ses deux Yorkshire sous le bras. Il y a quelque chose d'à la fois très touchant et totalement ridicule dans ça, quoi.
Et tous les deux, vous avez des photos qui racontent les histoires, mais sans avoir éprouvé le besoin d'ajouter un texte explicatif.
Ah, surtout pas. Alors, moi, je fais partie des photographes. Pour moi, une photo doit se suffire à elle-même. Alors, il peut y avoir une information complémentaire utile dans certains cas, notamment pour la photo de reportage, bien évidemment. Mais dans mon cas, moi, je suis comme un peintre, ça doit se suffire à lui-même. Quand vous êtes devant une toile d'un peintre que vous aimez beaucoup, ou d'une estampe japonaise, parce que j'adore les estampes japonaises, il n'y a pas d'explication. Vous comprenez, vous ressentez ce qu'a voulu retransmettre l'artiste. Je parle des estampes japonaises parce qu'ils ont beaucoup parlé de la pluie et de neige, les kawas, Hiroshige et autres. Il y a énormément d'estampes, il pleut, il neige, ils traitent énormément ça. Donc c'est un truc d'émotion, de ressenti, il n'y a pas de mot à mettre dessus, quoi.
Éric Bouvet, de votre côté ?
Là, je suis pas d'accord avec Christophe parce que parfois on a besoin. Je vais donner deux exemples. Après le livre sur la montagne et l'élévation, j'ai été mandaté par la Fondation des Trails pour faire un sujet sur la frontière franco-italienne. Et j'ai trouvé comme sujet l'école. Alors pas tous parce qu'il y en a centaines, et j'en ai pris une vingtaine qui ont une histoire. Et j'ai grimpé, j'ai fait ces photos de col qui sont pas tous très très esthétiquement très intéressants photographiquement parlant. Et en dessous, j'ai raconté la petite histoire de ce col. Donc ça va de culturellement, ça va de géographiquement, ça va de l'histoire. Enfin, chaque col a une petite histoire et je peux t'assurer que c'est assez étonnant parce que les gens lisent et déjà les gens lisent beaucoup plus qu'on pense sous les photographies. Et je me souviens quand j'ai fait mon exposition des 40 ans à Visa pour l'image, 40 ans de carrière, j'avais tartiné, j'avais mis des grosses légendes sous chaque photo de news pour la plupart. Et les gens prenaient un temps fou pour lire. Quand j'ai fait aussi, là, pour finir avec ça, je crois, avec prétention, dire que je crois que je suis le photographe qui a le plus bossé sur le Covid. J'ai fait 9 sujets. Et il y en a un où j'étais permis de rentrer à la PHP, donc dans les services de réanimation. Et c'était évidemment terrible. Et je me suis dit, il faut que je fasse autre chose aussi que de la photo de reportage. Et j'ai emmené un studio et j'ai fait témoigner chaque personne, c'est-à-dire que je crois que si je me souviens bien, il y a plus de 12 personnes de la chaîne de soignants pour un malade. Il y a 12 personnes, tu as besoin de 12 personnes, du chef de service, donc j'ai pas fait les brancardiers, mais pratiquement jusque-là. Donc, sous chaque personne, je leur ai demandé... Qu'est-ce que ça représentait pour eux, ce Covid? Qu'est-ce que ça voulait dire? Ces professionnels de santé. Donc, ce qu'on appelait à l'époque la première ligne.
Eh ben, je peux t'assurer que ce truc-là, quand tu le regardes, alors ils sont sur fond blanc, tu vois, et hop, chacun en photo et en dessous ce petit texte. Eh ben, ça, c'est quelque chose qui va rester pour l'histoire.
Je suis complètement d'accord avec lui, parce qu'on est dans, dans un autre type, une autre approche qui est beaucoup plus documentaire. Moi, je fais pas de documentaire, moi. Mais bien évidemment, il a raison.
Oui. Oui. Dans la démarche d'Éric Bouvet, effectivement, ça, ça peut se justifier. Et Éric Bouvet, hein, construire une photo, c'est construire une histoire dans un temps où la planète alors se modifie. Vous parliez du Covid-19, on a vu ô combien les limites franchies par les humains peuvent avoir des conséquences. Et là, la planète se réchauffe et modifie les paysages. On revient dans un instant avec vous sur ce sujet justement des Alpes. Écoutez cet extrait tout d'abord de reportage diffusé sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes le 28 septembre 2022.
Longtemps, elles ont semblé immuables. Mais sous l'effet du réchauffement climatique, les Alpes montrent aujourd'hui leur fragilité. Des rocs désormais mis à mal, et l'été 2022 est un tournant radical.
L'année est marquante, avec plusieurs canicules et une canicule extrêmement précoce qui a changé complètement la physionomie de la haute montagne très tôt dans la saison. Et ensuite, cette montagne n'a fait que se dégrader avec des conséquences fortes pour l'alpinisme, des itinéraires qui ne se font plus, des secteurs qui deviennent plus dangereux, plus techniques.
Le 3 juillet dernier, en Italie, le glacier de la Marmolade s'effondre en partie. Le bilan est terrible, 11 morts. Un mois plus tard, en France, le couloir du Goûter comme dynamité. Spectaculaire chute de pierre qui entraîne la fermeture des refuges. L'accès au Mont Blanc, désormais jugé trop dangereux. À quelques kilomètres de là, la Tour Ronde s'effondre elle aussi. Puis vient la fin août. Et cet impressionnant éboulement, une partie de l'arête des Cosmiques, juste sous l'aiguille du Midi. L'une des voies d'escalade les plus empruntées, sous le site le plus touristique de toute la région.
Ça fait 15-20 ans quand même que c'est de plus en plus prégnant. Et puis les 5 dernières années, c'est au-delà de ce qu'on imaginait.
Éric Bouvet, comment réagissez-vous face à ce qui s'efface sous l'effet du réchauffement climatique? Vous y pensez dans votre travail? Est-ce que vous vous posez la question, peut-être quand vous revenez sur des lieux, faire la même photo n'est peut-être plus envisageable aujourd'hui?
Ah oui, bien sûr, ça fait des années que je grimpouille dans le coin là-bas, donc j'ai vu comment ça a changé. Moi, je suis très ennuyé avec ça, parce qu'en fait, c'est sûr qu'on fait beaucoup de mal. L'humain fait beaucoup de mal. Et en même temps, j'ai vraiment foi en l'humain, en l'humanité. Parce qu'on arrive à se réinventer, on arrive à... Par exemple, la couche d'ozone, on a réussi à la minimiser. Là. Donc, si on arrive à faire ça, pourquoi pas continuer sur de meilleurs chemins? Alors, on le sait très bien, c'est des volontés politiques, des volontés aussi de budgétaires. Enfin bref, si je peux dire, c'est qu'une question de bon sens, tout ça. Donc... on a l'impression que des fois que les gens réfléchissent juste ce qu'ils vont vivre là dans les 2-3 ans, 4-5 ans, voire 10-20 ans, et que ce qu'on va laisser à nos enfants les intéresse pas. Moi, c'est l'impression que ça me donne. Alors, je suis plus un type en colère parce que j'ai un certain âge, et bon, maintenant, je sais très bien que c'est pas ma colère qui changera quelque chose. Et en même temps, j'ai foi en la nature qui est extraordinaire, qui arrivera toujours à se régénérer. Je remets pas du tout en question, je suis pas du tout quelqu'un qui va dire que, comme on peut l'entendre, tous les négationnistes ou les gens qui remettent tout en question, pas du tout, hein. Je sais que c'est nous qui faisons beaucoup de mal, mais en même temps, la Terre, depuis qu'elle a été créée, c'est quelque chose qui me passionne, moi, hein, la création de la Terre, et tout ce qu'elle a pu vivre, que ce soit alors en réchauffement, en extinction, 5 extinctions quand même, c'est pas rien,
oui.
Elle se régénère à chaque fois. On va pouvoir la... excusez-moi le terme, mais la pourrir tant qu'on voudra, nous les humains, mais elle va nous survivre. C'est nous qu'allons disparaître, c'est ça que les gens n'ont pas trop compris.
Il y a cette résilience du vivant, des écosystèmes, mais à condition quand même que l'homme laisse tranquille cette nature et cette planète qui malgré tout se réchauffe sous l'effet justement des activités humaines.
Ouais, mais bien entendu, je suis tout à fait d'accord, et c'est une évidence que c'est à nous d'y faire attention. Mais nous, petites personnes, pour la plupart, on y fait attention. Et ceux qui n'y font pas attention, c'est au-dessus de nous, et... quels sont les leviers pour leur faire comprendre ou les... C'est malheureusement, comme je le disais tout à l'heure, c'est des gens qui sont peut-être beaucoup plus imprégnés, qui ont beaucoup plus d'action, de levier d'action, par des moyens, bon, pas toujours louables, mais c'est terrible. C'est comme la dénonciation de la maltraitance animale et tout ça, et il faut dénoncer tout ça. Bon, là, c'est mon côté journaliste qui ressort, la dénonciation des choses, la formation. Mais la formation, on parlait de photos tout à l'heure au tout début. Là. Moi, je suis contre les cases. Je supporte pas qu'on enferme les gens dans des cases. Et cette photographie qu'on appelle la photographie, que ce soit d'auteur, de la photographie documentaire, une photographie, voire même une photographie contemporaine, quand vous regardez ces photographies, par exemple, si elles sont exposées, ça vous informe. Vous apprenez quelque chose. Vous vous posez des questions. Donc, quelque part, c'est aussi du photojournalisme. Il y a un lien, surtout. Il faut arrêter les extrêmes et cloisonner les gens, comme le noir et blanc dont on parlait tout à l'heure. Le noir et blanc, c'est des extrêmes. C'est pas intéressant, un noir bouché ou un blanc cramé. Ce qui est intéressant, c'est toute la zone de gris entre ce noir et ce blanc, justement. Enfin bref, comme dans la vie.
On peut dire aussi qu'en photographiant ces lieux extrêmes, ou intempéries, tout cela devient poésie, témoignage aussi, hein, témoignage de la fragilité de ces environnements, avec notamment le réchauffement climatique et autres. Mais aussi, c'est une façon de garder leur mémoire, Éric Bouvet, en un temps où il faut justement prendre conscience de cette beauté et du fait de la préserver.
Alors merci, je suis très content que vous parliez de ça, parce qu'en fait, toute ma vie, j'ai travaillé pour l'histoire, en fait. Que ce soit sur des conflits, des terrains de guerre, que ce soit la libération de Mandela devant moi, le mur de Berlin, des révolutions qui se gagnent, des conflits ou des catastrophes. Toute ma vie, j'ai travaillé pour l'histoire. Et c'est extraordinaire parce que j'ai des quarts de page dans les livres d'histoire donc de collège et de lycée. J'ai des photos qui sont achetées dans des musées qui seront gardées vitam aeternam. J'ai toutes mes archives là qui sont prises par la médiathèque du patrimoine. Donc c'est le ministère de la Culture. Donc c'est l'État. Donc, au même titre que Raymond Depardon, et en remontant jusqu'à Nadar. Imaginez, c'est extraordinaire. C'est là où sont aussi les archives du CNC. Donc je les remercie énormément parce que toute cette photographie va être préservée pour l'histoire. Et comme vous le disiez, quoi qu'on fasse, ce que fait Christophe, par exemple, sur le climat, sur tout ce qu'il peut voir, ça informe, ça reste, et on sert l'histoire. Ça servira dans 20 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, je ne sais pas ce qu'il en sera, mais on laisse trace. C'est ça le plus important, c'est de laisser trace.
Christophe Jacquot.
Oui, je suis d'accord. Moi, je prétends rien, j'aime faire, après, il reste ce qu'il en reste. Si ça touche les gens, c'est formidable. Ça, c'est vrai, quand je reçois beaucoup de retours de gens qui ça les touche profondément, ils ont besoin de ces images pour vivre avec, c'est quelque chose qui plaît. Moi, quelque part, je suis à l'opposé d'Éric, parce que je suis sur un versant plus doux, plus tranquille, plus positif qu'Éric. Donc on se complète là pour le coup. Mais d'ailleurs, le réchauffement climatique, moi ce qui m'inquiète beaucoup plus et qui me pourrit parfois mes nuits, hein, c'est pas le réchauffement climatique en lui-même, dans l'immédiat, très court terme. C'est les psychopathes qui dirigent cette planète. Hein. Les plus grandes puissances actuellement sont dirigées par des psychopathes. Et ça me fait beaucoup plus flipper à moyen terme. On a une espèce d'ambiance de Troisième Guerre mondiale en ce moment qui est ultra flippante. Et j'ai plus envie d'aller aux États-Unis, mais c'est pas parce que j'y vais pas que ça changera quelque chose, hein. Mais voilà, ça m'imprègne un petit peu quand même, sale période. Donc oui, je m'évade. Moi, je fuis, hein.
Mais revenir sur les lieux, refaire les photos, c'est ou c'était jusque-là dans votre démarche, Christophe Jacquot, vous l'avez dit d'ailleurs, je crois que vous l'avez écrit comme un paysan de la photo, je laboure un endroit que j'ai choisi parce qu'il m'inspire, mais revenir aussi, c'est potentiellement considérer qu'il y a des évolutions. Est-ce que ces évolutions, en lien avec le réchauffement climatique notamment, ou des effets sur les écosystèmes, vous le percevez, vous le sentez?
Alors, pas moi, forcément. Je l'ai vu en montagne avec des glaciers notamment qui disparaissent complètement. Il y a un hôtel que j'adore, que j'ai photographié plusieurs fois, qui est en Suisse, l'hôtel Belvédère. Avant l'hôtel, il a été construit parce qu'il y avait le glacier du Rhône à venir admirer, qui était très spectaculaire, avec des montagnes de glace qui faisaient de 50 mètres de haut, puis ça descendait jusque dans la vallée. Tout ça, ça a disparu, il n'y a plus rien. Il n'y a plus qu'une espèce de vallon roche déprimant avec un lac grisâtre affreux. Et du coup, l'attraction touristique, c'est l'hôtel qui est fermé depuis 6 ou 7 ans. C'est ça devenu, c'est cet hôtel au milieu du virage, c'est ça qui est devenu l'attraction touristique. Mais le glacier, il n'y en a plus. Il y a toujours le bâtiment, parce que derrière l'hôtel, vous avez ce gros bâtiment, il y a des boutiques de souvenirs. Il faut payer pour accéder derrière. Il faut payer pour voir plus rien. Ah, il n'y a plus de glacier, enfin, il faut marcher, et puis il reste un bout de glacier qui doit faire 300 mètres, quoi. Alors qu'avant, il devait faire 5 km. Donc, c'est déprimant. Mais moi, j'ai photographié l'hôtel Belvédère, ce fameux hôtel dans le virage, sous la neige.
Parce que il est en Suisse. C'est un endroit très photographié, très connu, mais je voulais le prendre sous la neige parce que ça, par contre, il y a pas, personne ne l'a fait parce que la route est fermée l'hiver, c'est inaccessible.
À 2200 mètres d'altitude.
Donc il fallait qu'il y ait une neige très précoce, fin septembre où la route est encore ouverte, que je dorme sur place. Donc j'ai réussi à négocier à dormir sur place dans ce fameux bâtiment qu'on voit pas.
C'est Christian Bobin qui disait la neige, c'est un peu de froid et beaucoup d'enfance. Est-ce que vous avez le sentiment, Christophe Jacquerot, que vos photos sont le reflet de votre âme?
Certainement, ouais. Quelque part, on fait tous un peu la même photo. Hein. C'est pas moi qui le disais. Mais en même temps, on fait 1000 variantes de la même photo. Mais les nuances, comme disait Eric.
Eric Bouvet, quelle est la photo que vous rêvez de prendre ou dans vos prochaines expéditions?
Le rêve. Ah ben, photographier le rêve, ça serait formidable pour qu'il ne s'efface pas.
C'est joli. Christian Jacquerot.
Une photo très simple sur une route dans le Vercors, en plein hiver, brouillard assez épais. Et subitement, face de moi, mais c'était une apparition absolument magique, au milieu de la route, là, un cerf immense, avec des bois comme ça, et il me fixe, il me regarde comme ça. Donc là, il y avait une... voilà. Et donc, je me suis arrêté, je roulais très peu vite, de toute façon, et l'appareil photo était sur le siège droit. Et je sentais, parce que ces animaux ont des capacités impressionnantes, je sentais que le geste risquait de le faire fuir, et c'est ce qui essayait là de se passer. Quoi. Le fait même d'essayer d'attraper l'appareil photo qui était sur le siège, qui était déjà pré-réglé et tout, il est parti. Et ce qui était étonnant, c'est que plutôt que de partir et disparaître, il est venu se coller au-dessus de moi, complètement sur ma gauche, en hauteur, pour continuer à m'observer. Sauf que là, il n'y avait plus de photos, hein, parce qu'il n'y avait plus cette perspective de la route, avec les sapins comme ça, qui lui découpaient. C'était comme une espèce de majesté qui apparaissait comme ça.
Mais
la photo n'existe pas, elle est dans ma tête.
Mais ce moment partagé.
Oui, c'est un souvenir dans ma tête, cette rencontre, voilà, archi banale en fait, hein, mais forte.
Mais là aussi, ce sont des belles photos. Merci à tous les deux. Merci Christophe Jacquerot, je rappelle le titre de votre dernier livre, Winterland, paru aux éditions Tinoyos. On peut aussi mentionner New York in Black ou encore Snjorj, paru aux éditions du Chêne. Éric Bouvet, merci à vous.
Merci.
Et à conseiller bien sûr votre dernier livre, Élévation, résultat de ces mois passés pendant 5 ans sur les flancs et pentes d'une partie des Alpes. Voilà, livre paru aux éditions Photosynthèse. Et je rappelle aussi d'autres titres de vos livres, Journal d'Ukraine, à conseiller, puis 40 ans de photos journalisme. Bien sûr, toutes les références, la biographie, les liens sont à votre disposition sur notre site franceculture.fr, rubrique de cause à effet, où d'autres podcasts en lien avec le sujet vous attendent. Merci à tous.
Merci à vous.